Histoire extraordinaire d'Eure-et-Loire, une émission présentée par Christophe Jubien et Philippe Collonge. Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir dans Histoire extraordinaire d'Eure-et-Loire, le rendez-vous mensuel de Radio Rancière qui vous permet de connaître, à côté de la grande histoire, la petite histoire, les petites histoires qui ont émaillé la vie de notre département au fil des siècles. Ces petites histoires, je les ai puisées dans le livre de Philippe Collonge, Curiosité historique et littéraire d'Eure-et-Loire, publié aux éditions EM et qu'on retrouvera dans toutes les bonnes librairies euréliennes. Philippe, merci de venir nous voir aujourd'hui encore. On va parler d'une histoire qui est assez captivante, assez un peu sulfureuse, un peu à l'opposé de l'histoire qu'on a racontée à nos auditeurs le mois dernier, les Lilas de Colin d'Arleville. Là, on va replonger dans l'œuvre de Proust et faire un focus sur un personnage dont on s'aperçoit que, eh bien, il a exister, quoi. Même c'est deux personnages, d'ailleurs.
Une des caractéristiques de Proust, c'est de se servir de tel ou tel trait de personnage pour en créer un autre. Et d'ailleurs, lui-même disait, il n'y a pas une clé pour chaque personnage. Il y a 8 ou 9 clés. Et donc, c'est ainsi qu'il crée, au fil de son roman et de la recherche, il crée des personnages qui apparaissent et disparaissent un peu au gré de sa fantaisie. Alors, il en va d'ailleurs de même pour les lieux qu'il décrit. Il change leur nom, il les modifie légèrement, mais on arrive quand même à retrouver l'endroit. Donc, c'est tout à fait caractéristique de son œuvre. Parmi les personnages dont nous allons tracer l'histoire, il y a une femme, une mystérieuse jeune femme qui, dans un premier temps, semble passer en quelques lignes dans son roman et qui disparaît ensuite. Mais je vais vous lire, car ça nous permettra d'éclairer le personnage réel qui l'a inspiré.
Et de goûter le style de Marcel.
Et de goûter, oui, avec un petit besoin de respiration supplémentaire en cours de route, de façon à pouvoir arriver jusqu'au bout. Alors je lis, le narrateur raconte « Parfois, au bord de l'eau entourée de bois, nous rencontrions une maison dite de plaisance, isolée, perdue, qui ne voyait rien du monde que la rivière qui baignait ses pieds. Une jeune femme, dont le visage pensif et les voiles élégants n'étaient pas de ce pays, et qui sans doute était venue, selon l'expression populaire, s'enterrer là, goûter le plaisir amer de sentir que son nom, le nom surtout de celui dont elle n'avait pas pu garder le cœur, y était inconnu. S'encadrer, c'est le visage, hein, c'est le visage. S'encadrer dans la fenêtre qui ne lui laissait pas regarder plus loin que la barque amarrée près de la porte. Je saute quelques lignes, on sentait que dans son renoncement, elle avait volontairement quitté des lieux où elle aurait pu du moins apercevoir celui qu'elle aimait pour ceux-ci qui ne l'avaient jamais vu. Et je la regardais revenant de quelques promenades sur un chemin où elle savait qu'il ne passerait pas, ôtée de ses mains résignées de longs gants d'une grâce inutile.
Ces trois dernières lignes sont très très belles, c'est presque...
Oui,
hein, c'est de la poésie en prose.
C'est une mélodie à l'oreille.
C'est une mélodie à l'oreille.
Et alors, donc, c'est donc du côté de Chesfan, la première partie, Combray, c'est l'enfance de Proust. Je rappelle que Proust est né en 1871, que la scène à laquelle il assiste vraisemblablement se situe autour de 1880-82. Il a entre 8 et 12 ans, si vous voulez. Et par conséquent, ça nous permettra d'éclairer un peu la suite de cette histoire. Alors, un écrivain britannique, les Anglais sont toujours là où on ne les attend pas, George Painter, a fait une biographie, a publié une biographie très fouillée de Marcel Proust, qui a été traduite au Mercure de France en 1966.
Oui, c'est-à-dire que l'œuvre de Proust a donné naissance à une multitude d'études.
Une multitude d'études.
Peut-être un des auteurs les plus...
Le nombre d'exégètes, de biographes, d'analystes, etc. Donc, ce Painter, qui a fait des recherches... très précise, nous dit le nom de cette jeune femme était Juliette Joinville d'Artois Et en 1880, c'est-à-dire que Proust a 9 ans, Painter nous dit qu'elle en avait 20 environ. On verra par la suite qu'il se trompe. Oui. Mais nous pouvons rétablir ensuite la vérité. Elle s'était, semble-t-il, isolée à Illier pour fuir un amour contrarié. C'est ce qui ressort ouais,
du passage
où elle dit qu'elle veut fuir le monde, etc. Alors elle avait un attachement nostalgique au passé qui l'avait conduite à récupérer dans les environs des mégalithes. Les mégalithes, ce sont ces pierres énormes qui sont à demi enterrées, voire totalement enterrées. Et elle faisait déterrer ces terres par des ouvriers et elle les faisait maçonner en quelque sorte sur la façade de sa maison. Un manoir qui existe toujours, qui s'appelle le manoir de Mirougrain, et qui se trouve sur la route de Saint-Aimant, quand on sort d'Illier, sur la route de Saint-Aimant, sur la gauche, on a un bras de la rivière, et on a le manoir de Mirougrain qui existe toujours.
Il y a une photo, hein, d'ailleurs, dans votre livre, on verra que cette façade-là, avec les mégalithes, bah, c'est franchement pas du meilleur goût, hein.
Ben c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très surprenant.
C'est très surprenant.
Alors donc, le Loir forme à cet endroit une sorte d'étang et la maison effectivement est isolée avec un talus qui la surplombe d'un côté. On verra tout à l'heure que ce décor, c'est bien celui que décrit un peu plus loin Proust. Le seul compagnon, nous dit Painter, de Juliette Joinville, aurait été un domestique sourd-muet.
Ah, déjà, là, on est dans le roman.
Dont la présence, naturellement, fit naître à Illier des propos d'étranges soupçons, des rumeurs. Les gens d'Illier n'étaient pas habitués à un sourd-muet, etc. D'ailleurs, on disait, ne l'a-t-elle pas choisi parce que il serait incapable de répéter ce qui se passait réellement dans ce manoir monstrueux.
On est vraiment là dans les...
De Mirougrain.
Ouais. On parle de légende urbaine aujourd'hui. Là c'est la légende rurale. Quoi.
C'est vraiment... la légende rurale. D'autant plus que... en dehors de ce sourd-muet, on voyait passer des jeunes filles étrangères qui restaient quelques semaines, quelques mois, qui disparaissaient ensuite. Bref, était là pour suggérer des choses franchement bizarres. Alors Proust, après cette rapide description qu'on vient de faire de la jeune femme sans nom, qui disparaît de son œuvre et qu'on ne retrouve pas plus loin, va se servir quand même de la légende qui entoure cette Juliette Joinville d'Artois pour créer un autre personnage qui, lui, est plus présent dans le roman et qui s'appelle Mademoiselle Vinteuil. Alors, Mademoiselle Vinteuil, c'est la fille unique d'un musicien qui vient de mourir. Et les relations, le moins qu'on puisse dire, entre la mère, et entre le père et la fille, étaient assez difficiles. Comme Juliette Joinville, Mademoiselle Vinteuil vit isolée dans une maison située au bord d'une grande mare, je cite Proust, et adossée à un talus buissonneux,
là,
c'est exactement...
On situe parfaitement
l'endroit. Elle reçoit les visites d'une amie, un peu plus âgée qu'elle, et qui a mauvaise réputation dans le pays. Ça doit être assez facile à l'époque d'avoir mauvaise réputation. Et ça va être l'objet de la part de Proust d'une scène un peu scabreuse, mais que je vais lire, pas in extenso, mais en grande partie, une scène assez osée qui mêle un peu de voyeurisme, un peu de sadisme, un peu de lesbianisme ou de saphisme.
Saphisme, c'est quand même plus joli. Hein.
C'est plus joli que lesbianisme. Ça sonne mieux. Absolument, oui. Et puis ça rend hommage à une poétesse de l'Antiquité, la belle Sappho. Mais laissons la parole au narrateur, qui est Proust, en fait, hein. C'était par un temps très chaud. Mes parents, qui avaient dû s'absenter pour toute la journée, m'avaient dit de rentrer aussi tard que je voudrais. Et étant allé jusqu'à la mare de Montjouvin, c'est Mirougrain, tel qu'il déforme les noms. Je m'étais étendu à l'ombre et endormi dans les buissons du talus qui domine la maison. Il faisait presque nuit quand je m'éveillais. Je voulus me lever, mais je vis Mademoiselle Vinteuil, qui probablement venait de rentrer, En face de moi, à quelques centimètres de moi, dans cette chambre où son père avait reçu le mien et dont elle avait fait son petit salon à elle. La fenêtre était entrouverte, la lampe était allumée, je voyais tous ses mouvements sans qu'elle me vît, mais en m'en allant, j'aurais fait craquer les buissons, elle m'aurait entendu et elle aurait pu croire que je m'étais caché là pour les pieds. Bon, alors l'hypocrisie de l'auteur est manifeste. D'abord, les quelques centimètres ne sont pas tout à fait la réalité, et puis ensuite dire « j'ai pas bougé parce que si j'avais bougé, elle m'aurait entendu et elle aurait pensé que je les pieds, donc j'ai préféré les pieds directement.
Hein » Bah, d'ailleurs, tout auteur, il y a un voyeur, forcément.
Il y a forcément un voyeur. Mais résumons la suite. Lorsqu'elle entend son amie, qui a la mauvaise réputation que j'évoquais tout à l'heure, arriver, mademoiselle Vinteuil, sous l'œil du narrateur, place vivement un portrait de son père à côté du canapé sur lequel elle prend la pose. Et s'engage alors entre les deux jeunes femmes un dialogue plein de sous-entendus, de feintes, qui se poursuit par un baiser entre les deux jeunes femmes et le commencement d'une étreinte, prélude à un jeu pervers proposé par l'ami de mademoiselle Vinteuil et accepté, et peut-être même espéré, par mademoiselle Vinteuil elle-même, puisque c'est elle qui a placé le cadre avec le portrait de son père.
Qu'elle n'aimait pas, rappelons-le.
Qu'elle n'aimait pas, avec lequel elle avait effectivement beaucoup de problèmes, et qui vient de mourir. Et elle propose, cette amie à mademoiselle Vinteuil, d'oser cracher sur le portrait du père décédé.
Ouais.
Ah, on est dans le sombre, là. Hein.
C'est très proustien. Quand on connaît les mœurs de Proust.
Oui. C'est assez torturé, ouais. Bien sûr. Et alors voilà, le narrateur reprend la parole et dit « Je n'en entendis pas davantage, car mademoiselle Vinteuil, d'un air là, gauche, affairé, honnête et triste, tout ça, vous voyez, quelle perception il a du visage de mademoiselle Vinteuil. Mademoiselle Vinteuil vint fermer les volets et la fenêtre. Mais je savais maintenant, pour toutes les souffrances que pendant sa vie, monsieur Vinteuil avait supportées à cause de sa fille, ce qu'après la mort, il avait reçu d'elle en salaire. Bon. Alors, quelle qu'ait été l'imagination de Proust, il faut quand même que Juliette, oui. Joinville d'Artois, qui a inspiré ce personnage de mademoiselle Vinteuil, ait eu une réputation extrêmement sulfureuse pour que il ait pu imaginer une telle scène.
Oui, parce que il était jeune au moment où
il en... on est en 1880-82, oui. Il a entre 8 et 12 ans.
Donc vraiment, il faut que les voilà, parole.
Voilà. Et puis, il a dû travailler ensuite tout ça, oui. Dans son esprit et puis en tirer cette inspiration. Alors. Naturellement, on va chercher à en savoir plus sur Juliette Joinville d'Artois.
Vous avez fait vos recherches.
Oui, bah bien sûr, j'ai complété les recherches, ouais. Bien sûr. La première chose, c'est que j'ai vu que Painter s'était trompé, car elle était née en 1836 à Arras, ce qui veut dire qu'en 1880, elle a largement dépassé la quarantaine. Elle n'a pas 20 ans, mais elle a une fille. Elle a une fille qui doit avoir... entre 15 et 20 ans, 18 ans.
Les deux personnages ont fusionné.
Et voilà, oui. Et c'est encore la méthode de Proust. On prend un peu de la mère, un peu de la fille, et on crée un personnage imaginaire. Et donc, lorsque le petit Proust, qui est né en 71, a pu la rencontrer, il a rencontré la mère et la fille. Ah, oui. Et cette fille, qui s'appelle Jeanne, donc elle avait un peu moins de 20 ans à ce moment-là, ce qui explique l'erreur ou la confusion entretenue par Proust. Elle avait rajouté D'Artois à son nom. Ça n'était pas son vrai nom, D'Artois, parce que c'était sa province d'origine. Ouais. Elle était née à Arras. Et elle était la fille d'un chef militaire de musique qui était décédé. Tiens, comme le père de mademoiselle Vinteuil.
En effet, oui.
Qui était décédé, mais qui lui avait laissé la possibilité de poursuivre ses études dans les maisons de la Légion d'honneur de l'époque. Ouais. Maisons de la Légion d'honneur qui ont été créées par Napoléon pour les officiers ou sous-officiers ou soldats qui recevaient à titre vivant ou posthume la Légion d'honneur.
Donc, pas rien, c'était un brave soldat.
Ah oui, c'était un brave soldat, oui, même s'il était dans la musique apparemment, il avait dû sans doute traverser quelques faits d'armes.
Oui, marcher en première ligne.
Marcher en première ligne, bien sûr. Et donc, il était légionnaire. Et par conséquent, sa fille avait pu étudier. Et c'était des études de très haute qualité. Ça existe toujours, d'ailleurs, la maison d'honneur. Il n'y a plus la maison d'honneur des Coins. ni d'éloge, ou qui était, il y avait trois maisons, en fait. L'éloge, qui se trouvait à Saint-Germain, et Écouen. Et puis, vous aviez également Saint-Denis. Saint-Denis existe toujours à côté de la basilique Saint-Denis à Paris, enfin, en banlieue parisienne. Vous avez toujours la maison de la Légion d'honneur.
Et donc, qui peut étudier là-bas? Il faut...
Eh bien, toujours... peuvent étudier les enfants de légionnaires ou les enfants de personnes mortes pour la France, les orphelins de guerre, etc. Et puis, je pense maintenant que ça s'est un peu ouvert et un peu démocratisé et que d'autres jeunes filles de bonne famille peuvent suivre leurs études dans ces lycées. Notre jeune fille... Alors, je me suis renseigné auprès des archivistes de la Légion d'honneur. J'ai retrouvé les bulletins.
Alors, bon élève ?
Excellent élève, mais caractère un peu difficile et par conséquent, une personne qui n'était pas très aisée à manier, assez, un peu excentrique en quelque sorte.
On se rapproche un peu là, du personnage de Marcel Proust.
Ah, on se rapproche tout à fait du personnage de Proust. Et voilà que notre jeune fille de bonne famille va sortir de l'école de la Légion d'honneur. C'est un beau parti, hein. Elle est éduquée, elle est bien élevée, etc. Patatras, à 20 ans, elle accouche d'un enfant de père inconnu.
Alors, à l'époque,
oui, vous imaginez.
Quand on sort de la maison de la Légion d'honneur, enfin là,
absolument. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se réfugier à Illier pour fuir le scandale et peut-être aussi pour oublier... celui qui l'a abandonné avec cet enfant. Alors, naturellement, la curiosité m'a poussé à chercher un peu plus loin pour essayer de savoir qui était le père.
Bien sûr.
Voilà un enfant, Jeanne, la petite Jeanne qui naît en 1856, si ma mémoire est bonne. Et donc, elle va se réfugier à Illier, mais elle achète un manoir, même si ça n'est pas un château, il faut quand même qu'elle ait suffisamment d'argent. Et puis elle va vivre de ses rentes, entre guillemets. De quoi vit-elle là-bas? Il faut donc que quelqu'un paye pour tout ça.
Ah oui. Et donc,
on peut supposer que le père inconnu n'a pas totalement délaissé la jeune Juliette et sa progéniture, et qu'il a au moins fourni les subsides pour qu'elle puisse se payer ce manoir, vivre tranquillement, et se payer le luxe d'aller faire ramasser dans les environs ces mégalithes qu'elle s'amusait à faire cimenter sur le devant de sa maison.
Alors, bon, y a une chose qui me frappe, c'est que finalement, c'est une femme seule tout de même, parce que son père est mort, elle n'a pas de famille, elle n'a pas de...
Elle a une mère, mais on n'en parle pas beaucoup. On ne sait pas si la mère a survécu peut-être au scandale aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'enfant Jeanne, la petite Jeanne, naît à Enghien-les-Bains. Enghien-les-Bains, ça n'est pas n'importe quoi sous le Second Empire. Enghien-les-Bains, c'est un endroit où la cour de Napoléon III se réunit très souvent, d'autant plus qu'il y a à Enghien-les-Bains une cousine de Napoléon III qui s'appelle la princesse Mathilde et qui reçoit très généreusement tout ce beau monde dans ses propriétés de Saint-Gratien. Ça veut dire que c'est un endroit qui était fréquenté par le Gotha du Second Empire. Naturellement, on imagine facilement qu'un bel officier ou qu'un notable particulièrement placé... certains, naturellement, n'ont pas hésité à dire que peut-être l'empereur lui-même, Napoléon III, pouvait être l'auteur de Jeanne.
Ouais, parce qu'il était assez porté sur la chose.
C'est le moins qu'on puisse dire. Il a eu de nombreuses favorites. La pauvre génie a été fréquemment trompée. Et bon, il n'était pas d'une... comment dirais-je ? Il était d'une galanterie assez hardie. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, d'autant plus que certains apportent un élément supplémentaire pour justifier le rôle de Napoléon III, c'est qu'à l'église d'Illier, au fond de l'église à gauche, on peut voir, toujours de nos jours, une tête géante d'un Saint-Jacques, qui est la réplique en plâtre de la statue, de la tête de la statue de la tour Saint-Jacques qui se trouve à Paris et qui a été rénovée en 1858. Et l'empereur a fait don à l'église, l'empereur lui-même a fait don à l'église d'Illier d'une réplique en plâtre de cette tête de Saint-Jacques. Alors, okay. Oui, c'était un geste qu'il faisait vis-à-vis de Juliette, etc. Je ne crois pas à tout cela. Je pense tout simplement que l'idée est venue de donner cette réplique de la tête de Saint-Jacques parce que l'église d'Illier est sur la route de Saint-Jacques de Compostelle et que la paroisse d'Illier, c'est la paroisse Saint-Jacques. Ouais. Donc, il y avait là une logique évidente. Mais il n'empêche que tout ceci, naturellement, a agrémenté, a, suscité des murmures, des sarcasmes, etc., qui ont touché probablement Juliette Joinville. Alors, je me suis aussi intéressé un peu aux serviteurs sourds-muets, et puis à ces jeunes filles qui venaient et disparaissaient.
Alors, amour saphique ou pas ?
Non, peu vraisemblable. Non. Je pense que le serviteur muet était simplement un jardinier qui avait des difficultés d'élocution, et que les jeunes filles étaient des jeunes filles au pair, des jeunes filles étrangères qui venaient pour s'occuper de la petite Jeanne. Oui. Hein? Donc voilà, mais simplement son goût pour les pierres, ce mystère qui entourait la naissance de Jeanne et son isolement manoir de Mirougrain ont suscité toutes ces rumeurs.
Elle est-elle à la messe ?
Alors écoutez,
ça lui aurait beaucoup aidé. Non
je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Je pense que oui, on a qui ouais. n'allait pas à la messe oui. à l'époque. Hein. Non, je pense que elle allait à la messe régulièrement. Je ne sais pas si elle avait un banc proche de celui du petit Proust, puisque dans l'église d'Illier, il est marqué. La famille Proust avait son banc. Alors, Juliette Joinville a gardé un peu son mystère, et probablement que lassée de toutes les rumeurs qui s'accumulaient autour de sa présence comme objet de scandale, elle a fini par quitter Illier la fin du siècle, et du siècle du 18e, du 19e siècle, pardon. Et elle s'est réfugiée d'abord à Paris, avant de regagner Cannes, où elle est morte en 1909. Elle avait donc sa fille Jeanne, qui a épousé en 1898, j'ai retrouvé trace dans les archives, un certain monsieur de la cour qui avait 25 ans de plus qu'elle, et elle est morte sans enfant, sans postérité, en 1926. Mais ce qu'il y a de surprenant, c'est que quand on visite le cimetière d'Illier, au fond du cimetière, face à l'entrée, il y a une tombe sur laquelle figure Juliette, poète et veuve de la cour. Ça veut dire que Juliette Joinville d'Artois a choisi...
D'être inhumée à...
Oui. A-t-elle choisi ou quelqu'un a-t-il choisi pour elle ? Est-ce sa fille ? Comment sa fille est-elle venue la rejoindre ? J'ai pu avoir de la part de la mairie d'Illier confirmation qu'il s'agit d'une sépulture permanente, à perpétuité, et qui a été demandée dans les années 1900 et quelques. Alors, je ne sais pas du tout qui est derrière ça. Il faudrait... Mais j'ai pas eu le temps ni le goût d'aller plus loin dans mes recherches, mais il serait amusant de regarder, par exemple, dans les archives notariales d'Illier, pour peut-être avoir une trace de celui qui a acheté réellement le manoir de Mirougrain. Ce manoir de Mirougrain,
on peut le visiter, vous m'avez
qui dit, existe toujours, bien sûr, avec ses pierres monstrueuses sur la route de Saint-Aimant, on peut le visiter une fois par an. Une fois par an, au moment des journées du patrimoine. C'est une propriété privée, mais les propriétaires, monsieur et madame Brunet, qui sont des gens charmants, vous permettent de faire le tour de ce manoir et de vous remémorer la gentille Juliette Joinville et sa fille Jeanne dans les années 1880.
Eh bien, profitez-en aussi pour relire Proust, ou le lire, parce que relire, il faut d'abord l'avoir lu. Et vous retrouverez, chers auditeurs et auditrices, le destin de cette Juliette dans Curiosité historique et littéraire d'Eure-et-Loir de notre ami Philippe Collonge, paru chez EM Éditions et que vous trouverez chez votre libraire. Par ailleurs, vous pourrez bien évidemment réécouter cette émission sur notre site en podcast. C'est donc www.radiorentiel.fr. On se retrouve dans 4 semaines avec de nouvelles histoires. À très bientôt.
Tear down those walls of Troy. Way down those walls of Troy.